Gorbatchev, en 1985, est un homme du Parti communiste et un homme des services secrets, ce qui est moins connu. Mais il est, a priori, peu apprécié des soviétiques déjà, tout simplement parce qu'ils sont dans une logique « eux et nous », « nous le peuple », entre guillemets, les soviétiques, « eux l'État ». Et politiquement, jamais les soviétiques n'ont été enthousiasmés par les mots qui, ici, restent gravés dans le marbre, les mots de glasnost et de perestroïka.
Alors, ces mots, finalement, de glasnost et perestroïka, ils ont été inventés par qui ?
Alors, ce sont des mots qui ont été inventés beaucoup, probablement, par les services secrets, notamment par le KGB, puisqu'en fait, le KGB a formaté Gorbatchev pour un projet géopolitique, et c'est ça qu'il faut comprendre. L'Union soviétique, depuis la fin des années 50, voyait les performances de son économie décliner d'année en année. Au moment où Gorbatchev est nommé, taux de croissance du PNB est de 0% par an. L'Union soviétique se retrouve à ce moment-là dans une posture extrêmement désagréable, de s'enfoncer comme quelqu'un qui se noie à côté d'une Europe de l'Ouest tant critiquée, qui, elle, est en pleine croissance. Donc il y a une stratégie qui consiste à dire aux Occidentaux ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est le discours de la glasnost qui consiste à dire « Nous voulons devenir comme vous une démocratie, respecter les droits de l'homme, devenir une économie de marché et avoir la liberté de la presse ». En réalité, la presse n'a jamais été libre, elle a été utilisée pour faire passer ce message-là. En annonçant une petite partie de la vérité, on crédibilisait à nouveau tout le discours. C'est ça le génie de la glasnost pour la dimension intérieure. Et à l'extérieur, on donnait l'impression que l'Union soviétique changeait. Ce qui était en partie vrai, mais elle ne changeait pas dans le sens qu'on croyait.
Pourtant, on parlait au niveau officiel de perestroïka.
Perestroïka, c'est le discours qu'on appelait ici la refonte. En fait, c'est un discours de réforme. L'historien Michel Heller a publié un ouvrage remarquable qui s'appelle « Le septième secrétaire ». Il s'agit du septième secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. Il explique et démontre qu'il n'y a pas eu de réforme suivie. Il y a eu des réformes, des contre-réformes, en fait une valse hésitation. On faisait vivre, vous vous en souvenez peut-être, l'Occident au rythme très angoissant de la lutte entre les conservateurs et les réformateurs. Et le résultat de ces luttes, c'est que finalement, il ne se passait jamais rien. En tout cas, pas ce qu'on croyait. Que se passait-il en réalité? Il y a eu un double mouvement durant les années Gorbatchev qui est absolument extraordinaire. Premièrement, grâce au discours de la glasnost, les soviétiques ont inspiré confiance aux occidentaux, notamment aux européens, qui leur ont avancé des crédits. Donc il y a eu derrière Gorbatchev, c'est ça qu'il faut comprendre, un projet géopolitique remarquablement pensé par les services secrets soviétiques, et ils ont marqué des points. Il n'empêche que Gorbatchev reste pour les soviétiques l'homme qui est à l'origine de la fin de l'URSS.
Le projet politique n'était pas d'abandonner le système et le régime, mais bien de le conserver. Mais finalement, peut-on dire que ce projet politique finalement a échoué ?
Vous avez raison, le projet était de conserver le système en l'adaptant. Alors, est-ce que ce projet a échoué ? Dans un sens, le projet a échoué puisque le système n'est plus, et Gorbatchev, volontairement ou non, bien évidemment, il a été, comme tout le monde, certainement en partie dépassé par les événements, n'empêche que Gorbatchev est à l'origine de cette évolution et que les Américains ont probablement aussi joué un rôle clé, sans oublier Jean-Paul II qui a joué un rôle tout à fait déterminant dans la chute